Amen.
Amen. Merci Benjamin. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Si oui, faites un super, j'ai un oui. Donc voilà, c'est un vrai plaisir de vous retrouver, même si c'est un exercice un peu particulier que de se retrouver devant une foule d'écrans et voilà, de parler avec vous via un écran interposé. Mais les conditions sont ce qu'elles sont et du coup, ben, on fait avec. Voilà, voilà. Donc en tout cas, je suis très heureux de partager avec vous la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va étudier une partie du premier chapitre de l'épître de Jacques. Alors, il se trouve que j'aime particulièrement cet épître, je l'avoue. Donc, je suis parti sur un texte que j'aime. En fait, il se trouve que lors de notre premier groupe de croissance que je faisais avec deux frères, on avait décidé de lire l'épître en entier une fois par jour pendant toute la semaine. Donc, ça faisait 7 fois l'épître dans la semaine. Et le principe des groupes de croissance à ce moment-là, c'était que si l'un de nous n'avait pas fini de lire, de faire sa lecture de la semaine, c'est que le Seigneur avait encore des choses à nous apprendre sur ces passages-là, donc on recommençait. Et donc on commence la première semaine, donc je lis les 7 fois l'épître de Jacques, et puis il y a un des frères qui vient et qui me dit, bah écoutez, désolé les gars, mais cette semaine j'ai pas réussi à finir la lecture. Donc, pas de souci, le Seigneur a encore des choses à nous apprendre sur l'épître de Jacques. On a recommencé la deuxième semaine, toujours sur le même principe. À la fin de la deuxième semaine, ce même frère revient nous voir, nous dit « Bon, les gars, désolé, j'ai toujours pas réussi à finir. » Pas de problème, ok. On recommence une troisième fois. Alors, je vous dis, à la fin de la troisième semaine, il avait réussi, donc on a pu passer à autre chose. Mais en tout cas, ça nous a permis de lire 21 fois l'épître de Jacques d'affilée. Et en fait, il se trouve que c'était absolument pas quelque chose de pénible, c'était pas contraignant. Je trouve que c'est une épître qui est absolument merveilleuse. On apprend tellement de choses dans cette épître. En la lisant, on est littéralement rappelé à l'ordre par Christ quant à notre façon de vivre notre vie chrétienne. Et l'épître, en fait, aborde de nombreux sujets tels que la foi, la sagesse, la prière, notre conduite, nos paroles, nos actions, nos tentations, nos épreuves et aussi les œuvres du chrétien. Et tout ça, en fait, c'est abordé dans cet épître. Et d'ailleurs, c'est justement parce que Jacques parle des œuvres du chrétien que Luther a appelé, et là je cite ses propres mots, il a appelé cette épître véritablement une épître de paille, car elle n'avait rien de la nature de l'évangile. C'est comme ça que l'a appelé Luther. Et en fait, on peut comprendre sa pensée parce qu'il avait une peur viscérale de cette notion du salut par les œuvres. Mais en fait, cette épître est merveilleuse parce qu'elle ne parle pas du salut par les œuvres. On ne va pas étudier ce passage particulièrement de Jacques chapitre 2, mais juste faire un bref rappel. Le chapitre 2 nous parle du lien qu'il y a entre la foi et les œuvres. Et Jacques nous montre que si notre foi est authentique, alors forcément, des œuvres vont en découler. Et qu'ainsi, sans être sauvé par les œuvres, en fait, nos œuvres sont ni plus ni moins que la preuve d'une foi authentique. Alors, ça ne veut pas dire que s'il y a des œuvres, il y a forcément la foi. Mais s'il n'y a pas d'œuvre, c'est sûr et certain qu'il n'y a pas la foi authentique. Si je plonge dans l'eau, alors je serai forcément mouillé. Si je me plonge en Christ avec une foi sincère, alors nécessairement il y a des œuvres qui vont en découler. En fait, c'est une relation de cause-conséquence. Et Jacques, tout au long de son épître, va pouvoir nous parler du changement qui est opéré dans le chrétien à sa conversion. Et en fait, c'est un changement qui va nécessairement induire des actions concrètes qui reflète cette nouvelle nature du chrétien. Il se trouve que pour le contexte, l'épître de Jacques est sûrement l'un des écrits les plus anciens du Nouveau Testament. Il a été sûrement écrit vers l'an 50 après Jésus-Christ, donc en fait c'est juste une vingtaine d'années après la mort de notre Seigneur et sa résurrection, bien entendu, ne l'oublions pas. Et donc la plupart des théologiens s'accordent à dire que le Jacques dont il est parlé ici, le Jacques qui est l'auteur de cette épître, c'est le frère de Jésus qui était aussi un des anciens de l'église de Jérusalem. Et c'est intéressant de voir le style de cette épître. C'est clair et concis, c'est carré, quoi. Jacques va d'un point à un autre. Il énonce une vérité, il tire une conclusion et il va vers un autre point. Et en fait, les illustrations sont extrêmement nombreuses dans cette épître. Personnellement, je la trouve très agréable à lire parce que c'est un style qui me convient bien, en fait, d'avoir des illustrations. Et d'ailleurs, en tant que prof, quand j'enseigne à mes élèves, j'utilise beaucoup d'illustrations parce que je trouve que ça parle énormément. En fait, ce livre, c'est un manuel. C'est un guide pratique de la vie de tous les jours. En le lisant, En le recevant comme ce qu'il est, c'est-à-dire la parole de Dieu, on est poussé forcément à adopter un regard critique sur notre vie, sur nos pratiques, sur notre façon de vivre notre vie chrétienne. Et Dieu, en lisant cette épître, nous pousse à nous remettre en cause, à réfléchir et à avancer donc dans la sanctification. Dans ce premier chapitre de Jacques, on va lire les versets 1 à 18. Et je vais partager mon écran avec vous. Voilà. Hop, normalement, vous voyez Jacques, chapitre 1, versets 1 à 18 qui s'affiche. Et je rappelle que tout en haut, vous avez normalement à côté, il y a une petite barre verte où il y a marqué que Jérémy partage son écran. À côté, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre dans les options d'affichage, mettre code-code pour avoir mon visage qui s'affiche d'un côté et le PowerPoint de l'autre. C'est parfois plus facile de fixer son attention quand on voit la personne qui nous parle. Donc, je ne vais pas faire une étude biblique au sens premier du terme. C'est-à-dire que je ne vais pas décortiquer chaque conjonction de coordination, chaque verbe, chaque mot, parce que sur le passage que j'ai choisi, ça serait trop long de faire ça en détail. Mais je vais simplement essayer de vous exposer ce qui m'a parlé à la lecture de ce texte, de ce passage, et de voir vraiment avec vous quel est l'encouragement qu'on peut tirer de ce texte. Donc, je vais commencer la lecture dans Jacques chapitre 1, donc versets 1 à 18. De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées, salut. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Que le frère de condition humble tire fierté de son élévation. Que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement, car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Le soleil se lève avec son ardente chaleur. Il dessèche l'herbe, sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit. De même, le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés, tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières en qui il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Voilà. On va, dans un premier temps, parler de la joie dans l'épreuve. Ça sera notre première partie. Et dans un deuxième temps, on va parler de l'origine de l'épreuve. Alors, hop, voilà. La joie dans l'épreuve. C'est intéressant de voir que, dès le début, Jacques se positionne avec humilité. On pourrait s'attendre à ce qu'il se place en tant que demi-frère de Jésus, en tant qu'ancien de l'Église, qui revendique une certaine position, un certain statut. Mais en fait, non. Il se place humblement en tant que serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Et cela nous incite, en toute chose, à l'humilité, à reconnaître la seigneurie de Christ, afin de pouvoir recevoir humblement ce que Dieu a à nous transmettre. Si on se reconnaît serviteur de Dieu, alors on reconnaît que Dieu sait ce qu'il y a de mieux. Et ce passage que nous voyons aujourd'hui nous parle de l'épreuve, de la difficulté. Et si on reconnaît que Dieu est aux commandes, alors on se place dans une position qui est propice à recevoir ce que Dieu veut nous enseigner au travers de cette épreuve. Dieu ne nous doit rien. Il n'est pas notre débiteur. Il faut bien comprendre qu'on ne lui a pas fait le cadeau de notre vie parce qu'un jour on a décidé de devenir chrétien. Non, c'est lui qui nous a fait le cadeau de la sienne par amour. Il ne nous devait rien déjà dès le début. Il a offert sa vie et aujourd'hui ne nous doit toujours rien. Il faut qu'on se rappelle de cela. Jacques commence de façon très directe. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et là, en fait, on rentre cash au cœur du message, sans fioriture. La joie dans l'épreuve. Et même Jacques va plus loin. L'épreuve, sujet de joie. Alors ça peut paraître impossible de concilier ces deux mots, de l'épreuve et de la joie. Et pourtant, Jacques n'hésite pas à le faire. Le mot utilisé pour parler de l'épreuve en grec, c'est perasmos. Et en fait, c'est un mot qui est aussi utilisé pour la tentation. Il est utilisé à plusieurs reprises dans la Bible, notamment en 1 Corinthiens 10. Et ce mot sera aussi utilisé dans le passage qu'on vient de lire au verset 12. Et il veut littéralement dire être en butte à toutes sortes d'épreuves. Être en butte. Il y a cette notion d'obstacle, cette notion de « on vient bloquer contre quelque chose ». C'est quelque chose qui potentiellement peut nous empêcher d'avancer. Et d'ailleurs, en fait, on retrouve cette notion d'être en butte à diverses tentations dans la traduction d'Arby, qui est la seule, je crois, à reprendre cette notion d'être en butte, de voir un obstacle. Et en fait, on a un large panel de situations qui sont couvertes par ce verset. Les tentations sont un type d'épreuve, ils seront abordés un peu plus tard dans ce passage. Et Jacques explique clairement que les épreuves sont une occasion formidable de devenir persévérant. La traduction parole vivante du verset 2 nous dit « Mes frères, réjouissez-vous lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou de tentations. Estimez-vous heureux. Elles sont pour vous l'occasion d'accéder à la joie parfaite. » L'épreuve ou la tentation n'est pas facile en soi. Ça n'est pas elle qui nous rend joyeux. La Bible, à aucun moment, ne nous appelle à devenir masochistes ou à rechercher la souffrance. Mais nous avons l'occasion d'apprendre tellement de choses au milieu des épreuves. Notre communion à Christ peut se voir renforcée. Notre foi peut se retrouver boostée comme jamais lorsque nous sommes dans les épreuves. Lorsque notre foi est mise à l'épreuve, cela produit chez nous de la persévérance. Les grands hommes de Dieu ont pu faire ce qu'ils ont fait car leur foi a été mise à l'épreuve dans de nombreuses situations. Et cela a produit chez eux de l'endurance et de la persévérance. On s'étonne parfois de voir ces grands hommes de Dieu vivre des choses absolument dingues et de les voir avec une foi sincère et profonde. Et en fait, quand on pense à tous ces moments où ils ont eu des épreuves, ils ont laissé Dieu travailler leur foi pour qu'ils puissent avoir cette persévérance, c'est ce qui a fait d'eux les hommes qu'ils sont devenus. Certaines versions ont à la place de la persévérance le mot patience. Et en fait, les épreuves nous apprennent aussi la patience. Il y a un petit dicton que j'aime bien qui dit « La patience est une vertu qui ne s'acquiert qu'avec de la patience. » Et en fait, là, au vu de ce passage, on pourrait dire que la patience est une vertu qui s'acquiert au travers des épreuves. En fait, la patience, ça va être l'attente d'un avenir plus radieux. Pas nécessairement dans ce monde, mais en tout cas dans la présence de Dieu. Si on arrive au verset 4, je vais vous lire encore la traduction parole vivante. Elle nous dit « Mais pour que vous parveniez à une pleine maturité spirituelle, il faut que l'épreuve achève son œuvre sans que votre constance se relâche et que votre patience se manifeste dans toute votre conduite et s'accompagne d'actes parfaits. Ainsi, vous serez plein de force et vous parviendrez au but. Vous deviendrez irréprochable, et il ne vous manquera rien. » Je vous conseille vraiment cette traduction parole vivante. Elle met parfois plus de mots que ce que d'autres versions le mettent, mais elle est très riche dans le sens et qui nous permet vraiment de comprendre en fait ce que certains passages veulent dire. Dieu nous fait parvenir à une maturité spirituelle car il permet que notre foi se développe au travers des épreuves. Au travers des épreuves, en fait, Dieu nous donne une force insoupçonnée. Et cette force ne vient pas de nous-mêmes. Dieu nous apprend à considérer ce qui est le plus important. En fait, on se rend compte que dans les épreuves, ce qui est secondaire disparaît. Et ce qui n'est pas important arrête d'occuper nos pensées. Il reste que l'essentiel. En fait, les prédicateurs utilisent souvent cette image du feu qui purifie l'or. En fait, quand on met le feu dans le creuset, le feu en fait, va petit à petit brûler et enlever toutes les scories, toutes les choses en fait, qui rendent l'or pas tout à fait pur. Va enlever tout ça. Et en fait, c'est exactement ce que fait l'épreuve pour nous. L'épreuve va petit à petit mettre loin de notre regard toutes ces choses qui occupent notre regard régulièrement, toutes ces choses qui nous occupent l'esprit, et en fait va finir par nous laisser nous concentrer sur ce qui est essentiel. Et en fait, de tout ça va ressortir une foi véritable, une plus grande joie. Et pourquoi une plus grande joie? Tout simplement parce qu'on se rapproche de Dieu. On vit une période de confinement. C'est une période qui est très particulière parce que l'épreuve et la tentation peuvent se manifester de bien des façons. L'envie de sortir, l'impression de ne plus supporter l'enfermement, la tentation aussi de peut-être laisser notre caractère se dégrader parce que nous sommes les uns sur les autres et que cette proximité avive les tensions. Il se trouve qu'en Chine, les statistiques de violences domestiques et de divorces ont explosé suite au confinement. Sarah a lu il y a peu de temps un article qui faisait état d'une augmentation de 30% des violences domestiques en France. Ce confinement, c'est une source d'épreuves pour certains et de tentations pour d'autres. Et on a besoin, avec humilité, de demander à Dieu sa sagesse. Car si l'un de nous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Cette sagesse dont on a besoin, elle nous vient bien entendu de Dieu. Nous avons encore et toujours besoin de dépendre de lui, pour que ce soit lui qui nous donne cette capacité à distinguer la bonne attitude à adopter en toute situation, afin d'atteindre cette maturité spirituelle dont il nous est parlé. Mais il y a une question. Est-ce qu'on a réellement la conviction que Dieu peut nous changer? Est-ce qu'on est sûr et certain que Dieu peut nous donner cette sagesse dont on a tant besoin pour voir notre persévérance se développer? Est-ce qu'on croit réellement que le combat n'est pas perdu d'avance? Parfois, on se réfugie derrière des expressions telles que « Ah, c'est pas à mon âge qu'on va me changer » ou alors « Cherche pas, je suis comme je suis, alors accepte-moi comme je suis ». En fait, je suis désolé, mais la parole de Dieu ne va pas dans ce sens. Dieu nous dit que nous pouvons changer. Je vais vous afficher un certain nombre de versets qui nous disent cela, on va les lire ensemble. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7. « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » 1 Pierre, chapitre 1, verset 14 à 16. « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. » Bien entendu, chaque chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Et bien entendu, on ne pouvait pas passer à côté, Romains chapitre 12, versets 1 et 2, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Voici quelques versets parmi bien d'autres qui nous montrent que l'immobilisme dans notre état actuel, le fait de renoncer à la marche de la sanctification, ne sont pas parmi les plans de Dieu pour nous. Il est écrit: c'est pourquoi si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans faire de reproche, elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Certains s'attristent parfois du fait que la Bible ne donne pas de réponse toute faite à telle ou telle situation bien particulière. Mais en fait, la Bible nous dit exactement où chercher. Demandez à Dieu la sagesse et il vous la donnera. En fait, les situations sont tellement nombreuses et variées que le seul moyen de les couvrir toutes, c'est de nous rappeler qu'il faut demander à Dieu sa sagesse. On s'étonne parfois de voir quelqu'un qui semblait avoir progressé, qui semblait avoir fait des efforts, et on le voit finir par exploser dans un tourbillon de colère. On ne comprend pas. Et en fait, il se trouve que parfois, on essaie de prendre sur soi en se disant « il faut que je m'améliore ». L'amorce de cette réflexion est bonne. Mais pour entamer ce processus, on a deux possibilités. La première, c'est d'essayer par nous-mêmes. On serre les dents quand une épreuve survient, on ferme les yeux, on refuse de se laisser submerger, on emmagasine une quantité de frustration qui nous transforme en cocotte minute, prête à exploser quand la pression deviendra insupportable. La deuxième option, c'est de se placer en tant que serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, en demandant à Dieu de la sagesse, sans douter, avec une foi pleine et entière envers le fait que Dieu peut nous donner sa sagesse et ainsi nous transformer. Et ainsi, par la sagesse d'un comportement approprié, apaisé, parce que Dieu est avec nous et nous transforme, nous arriverons enfin à une joie parfaite qui ne fera pas de nous quelqu'un d'inconstant, mais qui, à chaque changement de direction du vent, restera solide. À chaque contrariété, nous serons capables de ne pas tout remettre en cause. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec quelqu'un de lunatique. En fait, il se trouve qu'on en a un au boulot et c'est vraiment difficile parce que quand on partage avec lui un sujet, quand on échange avec lui, on ne sait jamais s'il est dans un bon jour ou dans un mauvais jour. On ne sait jamais s'il ne va pas nous envoyer bouler et ça lui est arrivé plusieurs fois. Eh bien vraiment, cette personne déstabilisante, c'est parfois nous si on compte sur nos propres forces pour traverser les épreuves. Plutôt que de demander à Dieu de nous donner cette sagesse pour appréhender les difficultés, nous pouvons parfois essayer de compter sur nous-mêmes et ça n'est pas la bonne façon de faire. Nous devons laisser Dieu façonner notre caractère. Parfois, je m'émerveille lorsque j'entends le témoignage de certains frères ou de certaines sœurs devant la façon qu'a eu Dieu de les rendre joyeux malgré les épreuves qu'elles ont traversées, de leur donner une paix qui semble exceptionnelle, de leur donner un caractère agréable et doux. Ces personnes-là sont des illustrations vivantes de la vérité de ce passage que nous lisons ce matin. Réjouissons-nous, frères et sœurs, car les temps d'épreuve sont des occasions de voir Dieu nous transformer. Et j'aimerais vraiment que ça soit notre prière cette semaine. Seigneur, je suis ton serviteur. Au milieu des épreuves qui sont les miennes, je te demande la sagesse d'agir selon ta volonté, afin que tu me façonnes pour que je devienne une personne stable, constante et que tu me sanctifies. Je vais vous relire cette prière que j'aimerais qu'on vive cette semaine. Seigneur, je suis ton serviteur. Au milieu des épreuves qui sont les miennes, je te demande la sagesse d'agir selon ta volonté, afin que tu me façonnes pour que je devienne une personne stable, constante et que tu me sanctifies. Par la suite, dans ce passage, Jacques fait mention du verset 9 au verset 11 des riches et des pauvres. Que le frère de condition humble tire fierté de son élévation. Que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement, car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Le soleil se lève avec son ardente chaleur, il dessèche l'herbe. Sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit. De même, le riche se flétrira dans ses entreprises. En fait, ici, Jacques ne dit pas du tout qu'il a une condition qui est mieux que l'autre. Alors bien entendu, on peut penser que le fait d'avoir des moyens, ça permet de mieux vivre, etc. Mais en fait, il replace simplement les choses à leur juste place. Pour certains, l'épreuve, c'est de vivre dans la pauvreté, avec les nombreuses complications que cela implique. Pour d'autres, l'épreuve va se manifester dans des tentations diverses et variées au milieu de la superficialité de l'argent et du luxe. Et quand on voit en cette période de crise sanitaire qu'on vit, des personnes riches que la maladie emporte autant que des personnes pauvres, on se rend compte que la richesse, en fait, elle est éphémère et elle ne peut pas tout acheter. Le pauvre est élevé. En cela, qu'en tant qu'enfant de Dieu, ce qui nous caractérise, ça n'est pas notre compte en banque, mais notre statut de racheté. De même, le riche n'est pas supérieur aux autres. Il est abaissé car on le place au même rang que tout le monde. C'est peut-être quelque chose que le riche n'a pas l'habitude de vivre. Notre richesse, en tant que signe apparent dans la société, détermine notre rang aux yeux du monde. Mais les épreuves sont pour tous. Et ce qu'il ressort des épreuves, c'est une voie véritable qui prend tout son sens devant Dieu. Il n'est plus question de rang social, ni de hiérarchie, ni de fierté personnelle. Il ne subsiste que l'humble et profonde joie d'appartenir à Christ, d'avoir accepté son sacrifice à la croix et de savoir que nous avons le libre accès auprès du Père. En fait, finalement, il n'y a plus ni riche, ni pauvre. Nous avons tous le même statut, celui d'enfant de Dieu. Et nous sommes amenés à porter notre regard là-dessus, plutôt que d'accorder de l'importance à ce qui se flétrira et qui ne sauve pas. Nous arrivons à la deuxième partie de ce passage qui est l'origine de l'épreuve. Depuis le début du chapitre 1, il y avait plutôt la notion de ces épreuves qui sont extérieures et que Dieu permet pour le développement de la persévérance et de la joie du chrétien. Ici, Jacques parle davantage de l'épreuve intérieure, de la tentation. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation. En fait, ça ressemble aux béatitudes. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Il y a cette promesse d'une couronne de vie. Et j'ai vraiment l'impression qu'on vit tous à un moment ou à un autre des épreuves. Je ne pense pas que quelqu'un échappe à un moment à des épreuves et notamment à la tentation. Et au ciel, nous pourrons voir ceux qui portent cette couronne pour avoir tenu bon au milieu de ces tentations. Alors parfois, en lisant rapidement ce passage, on pourra avoir l'impression que cette couronne est pour ceux qu'il aime, dans ce sens que ça serait Dieu qui nous aime et donc qui nous donne une couronne. Mais non. En fait, si on lit bien le texte, il est écrit « pour ceux qui l'aiment ». Ce sont ceux qui ont de l'amour pour Dieu et qui tiennent bon dans la tentation qui recevront cette couronne. Ce passage nous dit bien que le fait de tenir bon dans les temps d'épreuve, de tenir ferme face à la tentation, nous permet de montrer notre amour envers Dieu. On se dit parfois que l'amour de Dieu est si grand qu'on ne pourra jamais l'aimer autant, alors on n'essaye même plus de lui montrer notre amour. On est là à dire « Dieu m'aime, c'est merveilleux » et on ne cherche qu'à recevoir et à profiter de cet amour. Mais l'amour, c'est aussi la réciprocité. Comment est-ce qu'on cherche à montrer à Dieu qu'on l'aime ? Aller au culte le dimanche matin ou le servir dans l'église, est-ce que c'est réellement suffisant comme preuve d'amour véritable ? Si on se demande comment montrer à Dieu qu'on l'aime, alors commençons par lui demander de tenir bon face à la tentation. Ça sera un bon début, ça sera déjà une preuve d'amour. Mais comment tenir bon ? Premièrement, ne faisons pas l'erreur de nous tromper quant à l'origine de cette tentation. Ce monde dans lequel on vit est un monde déchu. La maladie, la mort et les mauvaises actions, les guerres, tout vient du péché et de son action dans le monde. L'homme vit dans l'égoïsme et la recherche effrénée de sa propre satisfaction. On en a encore eu la preuve tout au début du confinement lorsqu'il a été déclaré. Des personnes se battaient pour du riz, pour des pâtes et pour du papier toilette. Nous sommes soi-disant un peuple instruit, civilisé, une nation de penseurs, le pays des Lumières, et on se bat pour du PQ. Vite, prenons 10 bouteilles de gel hydroalcoolique. Et si les soignants qui sont en contact avec les malades n'en ont pas, c'est pas grave. Moi seul, dans ma maison, bien confiné, j'en aurai. J'ai encore du mal à comprendre que certains puissent penser que la solution est là cachée dans le fond du cœur de l'homme. Comment l'humanisme peut-il encore être présenté comme une possibilité ou une vérité ? Le cœur de l'homme nous montre chaque jour qu'il n'est pas la solution, mais la source du problème. Quand certains ne respectent pas le confinement, se baladant au prétendu de leur droit à se dégourdir les jambes et en se réunissant les uns avec les autres, et que cela met en danger les personnes les plus fragiles qui nous entourent, c'est un exemple criant de leur égocentrisme. Clairement, on peut comprendre ce que Jacques dit lorsqu'il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Car le mal est diamétralement opposé à Dieu. Et d'ailleurs, lorsque Jésus a été crucifié, il a eu cette phrase « Eli, Eli, lama sabachthani » qui se traduit par « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu ne peut pas cohabiter avec le mal. Il n'a aucune part avec lui. Et c'est en raison de l'immense sainteté de Dieu que le seul sacrifice valable à perpétuité pour le rachat des péchés a été le sacrifice de Jésus. Si Dieu était à l'origine de l'épreuve, on pourrait y voir une raison de ne plus considérer l'homme comme responsable, parce que nul ne peut lutter contre Dieu. Mais ça n'est clairement pas le cas. Dieu n'est pas à l'origine de la tentation, et il n'est pas envisageable de se dédouaner. On retrouve ça dans la Confession de foi de Westminster qui a été publiée et établie par le Parlement anglais en 1646, suivant la tradition calviniste. Il est dit « De toute éternité et selon le très saint et sage conseil de Dieu, de sa propre volonté, Dieu a librement et immuablement ordonné tout ce qui arrive de telle manière cependant que Dieu n'est pas l'auteur du péché, qu'il ne fait pas violence à la volonté des créatures. » Il y a cette notion de libre arbitre. Et il est fondamental de comprendre qu'il est impensable d'attribuer à Dieu une quelconque responsabilité dans le cycle de la tentation et du péché. Dieu n'ayant donc aucune part avec le mal, il ne peut pas être le tentateur. L'origine de cette épreuve se situe donc ailleurs. Mais l'apôtre Paul montre que la source de toutes nos convoitises, c'est le péché auquel notre vieille nature est assujettie, comme nous le rappelle Romains chapitre 7, verset 8, que je vous affiche ici. Jacques nous présente là l'origine de l'épreuve qui est la tentation. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis, le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Encore une fois, je vais vous lire la version Parole vivante qui peut sembler plus explicite pour certains d'entre nous. Elle dit « Or, le mauvais désir, si nous lui cédons, conçoit et donne naissance au péché. Celui-ci, à son tour, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. » Le mauvais désir sera toujours là, présent, à plus ou moins forte intensité en fonction de la maturité, de la persévérance et de la patience que Dieu aura développée en nous, si nous avons demandé, bien entendu, à Dieu sa sagesse pour tenir bon dans les épreuves. Mais il sera quand même présent tant que nous serons sur cette terre. La tentation n'est pas le péché. Certains se sentent parfois fautifs parce qu'ils sont tentés. Non, le péché n'apparaît dans ce cycle qu'à partir du moment où nous cédons à la tentation. Et le fait de persévérer dans le péché engendre la mort. J'ai déjà évoqué cette notion de la persévérance du péché dans ma prédication sur Ananias et Saphira que vous pouvez retrouver sur le site de l'Église. Si on cherche à excuser notre péché en disant « c'est Dieu qui me tente » ou alors « c'est pas de ma faute », si on persiste dans le péché, si on ne le confesse pas, si on ne cherche pas à rétablir notre communion avec Christ, cela peut être le signe d'une mauvaise compréhension du salut et d'une démarche qui n'est pas totalement aboutie. 1 Jean, chapitre 1, verset 9, nous rappelle « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. » Alors bien sûr, cela ne veut pas dire que nous ne tomberons jamais, pas du tout. Mais Paul nous rappelle, dans l'Épître aux Romains, que nous sommes désormais affranchis de l'esclavage du péché, qui n'est plus une fatalité. Nous sommes libres d'accomplir la volonté de Dieu par l'aide de son Esprit qui vit en nous. Et en fait, il a communiqué aux croyants une nouvelle nature qui peut triompher de la convoitise avec les ressources divines. Ça, c'est 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17 qui nous le dit. Il faut savoir que chaque chrétien doit veiller sur ses propres désirs afin que face à la convoitise, il prenne l'attitude qui convient. Et ces attitudes-là, il y en a deux. Soit fuir, comme nous le rappelle 2 Timothée 2, verset 22, ou alors résister en s'approchant de Dieu, comme nous le dit Jacques chapitre 4, versets 7 et 8. Et enfin, on arrive à ce passage des versets 16 à 18. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre d'une variation. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Je trouve touchant l'amour qu'a Jacques pour ses frères et sœurs. Mes frères et sœurs bien-aimés. L'amour pour les autres est l'une des qualités qui sont forcément développées dans notre proximité avec Christ. Il est impensable d'imaginer que l'on puisse se rapprocher de Dieu sans développer cet amour pour notre prochain. La sanctification, c'est de ressembler toujours plus à l'exemple de Christ. L'amour du prochain, c'est donc une part importante de cette sanctification. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ces versets nous poussent à la reconnaissance et à la louange envers Dieu. La sagesse qui nous est donnée par Dieu dans les épreuves est donc un don parfait. La nouvelle vie qu'il nous donne est un don parfait. Son esprit en nous en est un aussi. Et notre Dieu, contrairement à nous qui sommes parfois inconstants, parfois nous sommes fluctuants, Dieu, lui, ne change jamais. Chez lui, il n'y a ni changement ni ombre d'une variation. Pas la plus petite fluctuation. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et on voit ici nettement l'opposition. Les mauvais désirs du cœur qui mènent au péché puis à la mort et les bonnes choses qui viennent de Dieu. La solution vient-elle du cœur de l'homme ou de Dieu ? Clairement, la solution vient de Dieu. Ce passage nous rassure, car même lorsque nous ne comprenons pas comment ou pourquoi nous vivons certaines épreuves, même lorsque les plans de Dieu sont bien trop confus pour nous, alors nous savons que tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. L'acte le plus merveilleux de ce Père bon et parfait n'est-il pas d'avoir donné son Fils unique et d'avoir fait de nous ses enfants ? Il n'a pas épargné son propre Fils, nous dit Romains chapitre 8, verset 32. Et il donne avec lui tout don parfait à ceux qui l'ont reçu. Il leur donne le droit d'être enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Et c'est ce statut dont nous pouvons être fiers, que nous soyons humbles ou riches. Nous avons le droit d'être enfants de Dieu parce que c'est un don parfait qui vient de Dieu. Dieu nous élève ainsi au premier rang de ses créatures. Nous devenons en quelque sorte les premières de ces créatures, parce que ce statut nous élève, nous sommes enfants de Dieu. Au milieu de l'épreuve, au milieu de la tentation, nous ne sommes pas oubliés de Dieu. Nous ne sommes pas laissés pour compte ou abandonnés, car nous sommes en tant qu'enfants de Dieu en quelque sorte les premières de ces créatures. Peut-être qu'à certains moments, vous avez l'impression que Dieu vous a abandonné. Peut-être qu'à certains moments, vous avez l'impression que les épreuves ou les tentations sont trop dures pour vous. Dieu vous a sauvé, Dieu vous a transformé en enfant de sa fratrie. Donc, s'il l'a fait, lui qui ne change jamais, si lui ne vous a pas oublié au moment où vous êtes devenu enfant de Dieu, sachez qu'aujourd'hui encore, il ne vous oublie pas. Pour conclure, on peut donc affirmer que Dieu sera toujours présent dans nos épreuves, qu'il nous donnera toujours cette sagesse pour grandir, si nous lui demandons. Il nous donnera cette sagesse pour nous affermir et atteindre la maturité, et aussi une joie parfaite au milieu de nos épreuves. Dieu n'est pas l'origine de notre tentation, mais il est la clé pour triompher d'elle. Nos désirs coupables nous poussent parfois à nous détourner de Dieu par honte. Mais au contraire, lorsque nos mauvais désirs se manifestent, n'ayons pas peur de nous tourner vers Dieu, de faire appel à lui, de briser le cycle du péché. Et ainsi, nous atteindrons une joie parfaite pour qu'à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci pour votre attention.
Merci beaucoup, Jérémie.